Are you the one who's on the radio station?
Quartier des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Quartier des ondes. On est réunis autour du micro pour parler ensemble d'un sujet sensible et parfois un peu tabou, la glottophobie. Mais d'abord, on va se présenter. Je suis Maria. Avec moi, il y a Isabelle, Dikra et Manar. On suit les cours de langophonie et on est accompagné par Charlotte, notre professeur de langue. Aujourd'hui, c'est Langue en fête, un événement organisé par Langophonie dans les quartiers du Blon pour mettre en valeur toutes les personnes qui parlent, chacun à leur manière, et célébrer la richesse de parler plusieurs langues. Alors, c'est quoi exactement la glottophobie et pourquoi ça nous concerne autant?
La glottophobie, c'est le rejet d'une personne par sa façon de parler. C'est un néologisme créé par le linguiste français Philippe Blanchet pour éclairer les rejets d'un groupe de personnes qui n'encadrent pas les paramètres serrés d'une langue, en considérant une seule manière de s'exprimer comme légitime. Ainsi, la glottophobie peut recouvrir les refus d'une origine sociale et géographique. Et pour répondre à ta deuxième question, Maria, pourquoi ça nous concerne autant? La glottophobie nous concerne parce que la langue, c'est un instrument qui nous aide à partager nos idées et à nous débrouiller dans la vie quotidienne. En tant qu'apprenant du français comme langue étrangère, nous partageons facilement la crainte d'avoir une façon différente de prononcer le français, comme par exemple un accent, et d'être moqué ou rejeté pour cela. Alors, si on parle de glottophobie dans notre vie quotidienne, est-ce qu'il y a plusieurs contextes où nous pouvons être victimes?
Très bonne question. La glottophobie peut être présentée dans de nombreux contextes et lieux. Voici les principaux endroits où elle peut se manifester. À l'école, les élèves parlant avec un accent régional étranger ou utilisant un dialecte peuvent être moqués, corrigés ou critiqués par des enseignants ou d'autres élèves. Au travail, certains employeurs ou collègues peuvent discriminer des personnes en raison de leur manière de parler, ce qui peut limiter l'accès à certains postes ou à des promotions. Dans les administrations et les services publics, les personnes qui parlent avec un accent perçu comme non correct peuvent être moins bien traitées ou jugées moins crédibles. Dans le domaine de la santé et les services publics, une mauvaise maîtrise de français ou un accent marqué peut entraîner un mauvais accueil, un manque de patience ou des malentendus avec les professionnels. Les patients peuvent être perçus comme moins crédibles ou non sérieux.
Merci Dikra de nous avoir expliqué où on peut rencontrer ce genre de discrimination avec ces différents domaines. Et maintenant, nous allons écouter 4 témoignages. Khadija et Barhan, Allo et Dikra. Ce sont des histoires réelles partagées par des personnes qui ont fait face à cette discrimination. Et elles ont accepté de nous raconter ce qu'ils ressentirent. On commence avec le premier témoignage. Khadija va nous parler de ce qui lui est arrivé dans le domaine médical.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Khadija. Je suis syrienne. Je vous parlais d'une station qui m'est arrivée en France. Un jour, j'ai un rendez-vous chez le médecin. J'ai assisté le rendez-vous. Alors, le médecin m'a parlé en français. Et je lui ai demandé en discuter en anglais car je ne parle pas français. En raison, j'étais arrivée en France pas longtemps. Il me disait que tu fais quoi ici si tu parlerais pas français. Puis il a jeté jeter mon document sur par terre. Vraiment, cette action m'a touché. Et quand je me souviens, pour ça, je travaille toujours pour améliorer ma langue.
Merci Khadija d'avoir partagé ton histoire avec nous. Et on passe à Bolan qui raconte ce qu'il a vécu dans le domaine administratif.
Un jour, j'avais besoin d'effectuer une démarche administrative dans la ville de Rennes. À ce moment, je n'avais pas encore commencé à apprendre la langue de français. D'habitude, en général, j'ai été accompagné tous les jours avec mon ami, mais ce jour, j'ai été en seul. Je suis entré dans l'association pour demander le service. Et là, un des employés de l'association m'a invité à entrer dans son bureau. Il ou elle m'a demandé de fermer la porte en disant « fermez la porte ». Mais je n'ai rien fait. Et il ou elle a répété et je suis encore, je ne fais rien. Après, il s'est énervé et a crié « fermez la porte ». Tout en fermant violemment la porte, c'est à ce moment que j'ai compris que fermer la porte voulait dire fermer la porte, means close the door. Il semble que l'employé de la session était un peu stressé ce jour. On n'est pas vraiment de l'humeur.
Merci Buran et on passe à Aldo qui va parler de ce qui lui est arrivé dans le domaine du transport.
Bonjour, je donne mon avis sur les situations où les personnes sont désagréables avec les autres personnes qui parlent un français différent. Mais bon, je crois que tout le monde a droit d'apprendre une nouvelle langue. Je sais, il y a des fautes, surtout dans le français, que c'est une langue très très difficile parce qu'il y a beaucoup de règles, d'exceptions, la prononciation. Mais je crois que si une personne peut se communiquer, peut s'exprimer et se bien entendre, je crois que c'est bien. Mais oui, malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas tolérantes avec ce type d'absent. Même pour eux, ils font des fautes. Même les Français, qui parlent un français soutenu, font des fautes. Mais je ne sais pas pourquoi ils osent de critiquer ou de faire des mauvais commentaires sur les absents d'autres personnes. Je crois que toutes les personnes doivent être patientes et être plus tolérables pour les personnes qui apprennent les français. En plus, je suis mexicain et quand je parle espagnol, normalement, je prononce tous les mots. Et par contre, quand je parle français, je dois respecter les règles de prononciation, les voyelles nasales, car en espagnol, ça n'existe pas. Les premiers mois, quand je suis sorti, quand je prenais le bus, oui, c'était compliqué pour m'exprimer, pour demander un ticket, un billet. Et oui, et des fois, les conducteurs me disaient, je n'ai pas compris. Mais d'une manière très grossière. Et bon, mais pour moi, c'était un peu compliqué pouvoir m'exprimer plus parce que c'était en français courant. Parce que moi, j'essayais de parler en français soutenu ou sinon académique. Et oui, et c'était compliqué. Et je crois que oui, toutes les personnes, surtout les personnes qui rendent un service, doivent être plus patientes. Et à mon avis, je crois que si les personnes sont plus tolérantes, pardon, je crois que ça sera mieux de pouvoir avoir une communauté et que tout le monde apprenne la langue et la culture et surtout faire une bonne convivance.
Merci beaucoup Aldo et on passe au dernier témoignage d'Ekra qui parle de son expérience dans le domaine médical.
Un jour, j'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmologue et quand le jour de la rendez-vous, j'ai allé au cabinet. J'ai parlé avec la secrétaire médicale. Elle m'a dit, moi je parle et je bug. Elle m'a dit, tu parles pas bien français? J'ai dit oui. Elle dit, ton rendez-vous est annulé. J'ai dit pourquoi? J'ai dit qu'on n'accepte pas les gens qui parlent pas le français ou bien qui parlent pas bien le français et tu as raté ton rendez-vous et la prochaine fois tu m'as dit que tu prends un autre rendez-vous et la prochaine fois tu arrives avec un traducteur ou bien une traductrice.
Merci de partager votre histoire avec nous, vraiment c'est un bon exemple de glottophobie.
Donc la glottophobie c'est la haine irrationnelle d'une façon de parler et comme on vient de l'entendre dans les témoignages, il y a plusieurs personnes qui ont vécu des situations désagréables, voire plus graves à cause de leur accent ou de leur façon de parler. Alors, peut-on parler d'une discrimination ?
Alors, oui, je pense qu'on peut parler d'une discrimination. Je vais vous redire ce que dit la loi au sujet d'une discrimination. Pour que la loi reconnaisse une discrimination, il faut 3 choses. Il faut un traitement défavorable, c'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre 2 personnes dans une même situation. Il faut que cette différence soit faite par rapport à un critère. Maria, tu nous reparleras des critères de discrimination. Et puis, il faut que ce traitement défavorable, il soit fait dans une situation, dans un domaine. Et les domaines sont définis par la loi, comme la recherche d'un emploi, comme la recherche d'un logement, au travail, ou pour pratiquer une activité de loisir ou sportive. Voilà. Là, par exemple, d'ICRA, quand tu as pris, ton rendez-vous est pris chez l'ophtalmo, et on te refuse d'accéder au cabinet de l'ophtalmo par rapport à ton niveau de langue, ça, c'est de la discrimination. Voilà. Donc, Isabelle, je te redonne la parole.
Bon, merci, Charlotte. C'est-à-dire qu'il existe donc des critères de discrimination interdits par la loi. La glottophobie, c'est un mot récent. Alors, est-ce que la langue figure parmi ces critères de discrimination ?
Oui, bien sûr. En France, il y a 25 critères pour lesquels on ne peut pas discriminer. On connaît les plus classiques, l'âge, le sexe, l'origine. Mais il y en a qu'on oublie souvent, la langue. Et pourtant, la langue compte aussi. Parce que la langue, ce n'est pas juste un outil pour communiquer. C'est une identité, une histoire, une façon de vivre. Et parfois, elle devient une source d'injustice. Quand on est jugé pour son accent ou sa façon de parler, ou simplement parce qu'on ne parle pas comme il faut, eh bien, si c'est illégal. Mais en même temps, ce n'est pas toujours si simple. On peut aussi se demander Est-ce que c'est vraiment de la discrimination ou bien est-ce que normal de devoir progresser en langue, surtout quand on vit ou travaille en France? C'est là que ça devient intéressant. Où est la limite entre la glottophobie et une exigence linguistique légitime? Et surtout, qui décide de ce qui est correct, de ce qui est acceptable?
Pour moi, il faut toujours respecter la manière dont chacun parle, parce que c'est une partie de son identité, mais en même temps, travailler sur la langue peut aider à mieux se faire comprendre et à éviter le malentendu.
Merci pour ta réponse, Manar. Alors, on va lancer un petit débat entre nous. Si les personnes qui nous écoutent veulent aussi participer au débat, on vous donne le micro, il n'y a pas de problème. Ma première question pour ce débat, c'est, selon vous, est-ce qu'il y a des accents qui sont plus discriminés que d'autres? Voilà, ma première question.
Oui, il y a des accents plus discriminés que d'autres, comme les accents étrangers, parce que chacun a sa façon de parler et ça mérite le respect.
Moi aussi, je vois qu'il y a beaucoup de discrimination avec l'accent, parce qu'il y a une grande différence entre par exemple, les gens d'Afrique et les gens d'Asie, ou bien les Arabes et les Anglais. Quand ils parlent français, il y a beaucoup de différences.
Continuant avec l'argument de mes collègues, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a des accents qui sont plus discriminés que d'autres. Je pense que ça a une liaison avec peut-être les pays d'origine, parce que après que quelqu'un entend un français avec un accent différent, et ça le rappelle tout de suite les pays de qui la personne vienne, et peut-être c'est pour ça qu'il y a des accents qui sont plus discriminés par raison de son pays et de la culture de là-bas.
Est-ce que Maria, tu veux intervenir sur cette question?
Moi, personnellement, j'ai pas eu l'expérience de la discrimination en France. On est ici depuis presque un an, donc je crois que je sais pas la réponse.
Bonjour à tous, à toutes. Moi, je veux juste intervenir sur les accents. Pour moi, par expérience, de ce qu'on peut voir, ça peut être aussi un aspect économique. Donc, les migrations économiques, en général, sont plus dévalorisées. Ou les accents, par exemple, l'accent anglais est très mignon ou très, très valorisé, de dire je sais pas quoi, et d'autres qui sont malheureusement mal vus. Donc, on va souvent trouver je parle de l'anglais parce que c'est une langue, clairement, économiquement, qui est très intéressante, valorisante et valorisée. Et d'autres qui ne sont ni valorisés ni valorisants, donc on a tendance un peu à les discriminer et à les mettre de côté, parce que c'est pas très intéressant aussi économiquement. Il n'y a pas que ce côté-là, mais ça joue beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, Afida, de nous avoir apporté ton éclairage. C'est vrai qu'on va valoriser un accent anglais, par exemple, et on va dévaloriser un autre accent. Voilà. Donc... Deuxième question que j'ai préparée pour vous, c'est est-ce que on a pu répondre oui, il y a des accents qui sont plus discriminés que d'autres. Et Isabelle, tu as commencé à répondre à cette deuxième question. Est-ce que vous pensez que ça va être relié à d'autres discriminations?
Bon, dans ces cas, je prends la parole et continue dans les mêmes arguments que je viens de commencer. Que, pour simple, je peux voir facilement qu'il y a une discrimination par rapport au pays et sur les informations qu'on a sur ce pays. Pour simple, quand on entend un accent de l'Amérique du Sud, on a tendance à penser, bon, pas exactement moi, mais au général, il y a une tendance à penser que à faire une liaison entre la pauvreté et la drogue, des points de vue assez négatifs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une discrimination, pas seulement pour l'accent, sinon pour ce qui signifie cette personne comme un immigrant dans la France.
Merci beaucoup, Isabelle. Manard, tu veux dire quelque chose ?
Oh, tu peux continuer ?
Isabelle, ce que tu as dit, ça me fait penser à une clé de lecture aussi qu'on peut avoir des discriminations qui, des fois, se renforcent. Donc, ça s'appelle l'intersectionnalité, et c'est-à-dire qu'on va croiser plusieurs discriminations. C'est-à-dire qu'on va être discriminé pour sa langue ou sa façon de parler, son accent, mais aussi pour son origine et aussi peut-être pour son appartenance sociale réelle ou supposée, parce qu'on n'en sait rien, pour sa religion réelle ou supposée, donc ça va venir se renforcer, malheureusement se croiser et se renforcer. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les filles ? Non ? Pas spécialement ? Et une dernière question qui est un petit peu... pas difficile, mais elle est un peu pointue, mais je pense que c'est intéressant de se la poser. Voilà, on a un peu deux choses qui sont en opposition. C'est la nécessité de travailler sur la langue du pays dans lequel on vit, voilà. Et puis, de l'autre côté, un peu à la glottophobie. Et au milieu de tout ça, comment on fait ? Voilà.
Je pense que on doit faire des efforts tous ensemble. Donc, les Français. Je peux comprendre le français quand il essaie toujours comprendre ce qu'on dit, parce qu'on dit avec l'accent, avec une mauvaise prononciation et tout ça. Et en même temps, nous aussi, on doit travailler sur notre prononciation, on doit travailler apprendre la langue. Donc, faire les efforts.
À mon avis, c'est vrai. Quand on arrive dans un pays et si les pensées, c'est de vivre dans ces pays, rester dans ces pays, c'est très important d'apprendre la langue comme il faut, avec toutes les règles, les exceptions et la grammaire et tout ce qu'il faut pour bien s'exprimer. Mais c'est aussi important de comprendre qu'il y a plusieurs accents, qu'on ne peut pas toujours faire une prononciation parfaite, même les personnes qui vivent en France ont de différences en prononciation, pour exemple les mots plus, quelqu'un prononce plus, d'autres plus, donc ça change. Et c'est vrai que si on pense travailler ou si on essaye de travailler à la France, on doit faire tout pour apprendre bien les français, pour arriver à faire bien son travail. Mais en même temps, pour simple, pour moi, c'est assez choquant quand on arrive dans un magasin et on essaye de parler, de s'exprimer, de demander quelque chose que c'est peut-être assez facile de comprendre, mais quelqu'un une personne décide de dire « Bon, je ne parle pas français. » Parce que peut-être tu ne prononces pas très bien la R, qui a un point d'articulation différent de la langue espagnole. Et dans cette petite chose, il y a toujours une grosse différence entre ce qui est important de bien parler et ce qui est déjà une discrimination juste parce que tu ne parles pas parfait.
Et quand tu demandes cette chose dans ce magasin, tu parles français. Voilà. Ouais. Avec ton accent, tu parles français.
Ah, j'aimerais bien ajouter une petite chose. Je suis colombienne et en Colombie, on a une tradition, je pense peut-être que c'est quelque chose un peu plus culturel. Dans mon pays, on essaie de, par tous les moyens, comprendre les étrangères. Et ça, c'est une chose vraiment qu'on peut vivre tout le temps en Colombie, surtout à Bogota, qui est la capitale, et aussi dans les parties qui sont plus culturelles, plus touristiques. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment difficile d'arriver en France et qu'il y ait des personnes qui n'essayent pas de comprendre quand on parle français réel.
Vous voulez
ajouter en résumé, il faut travailler sur la langue, peut aider à mieux se faire comprendre et à éviter la malentendu.
Oui, Tom, Manard, ouais. Merci. Et pour travailler sur la langue, moi je fais une petite parenthèse, mais la langue c'est aussi un droit. Et voilà, en ce moment, il y a des grosses tendances qui poussent la langue vers les devoirs, absolument les devoirs, mais c'est aussi un droit. Et on a le droit de l'apprendre et on a le droit d'en être à un certain niveau dans cette langue. Voilà. En ce moment, on est en train de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur la langue, en France, en tout cas. Tu avais aussi un petit témoignage un peu plus personnel, Isabelle. On veut bien l'entendre si tu veux à ce moment-là de notre débat.
Ah oui, merci. Bon, alors, pendant mon séjour en France, j'ai entendu une infinité de fois que quelqu'un était incapable de me comprendre à cause de mon accent. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus peur de parler, de peur de ne pas réussir à bien m'exprimer. Même si je sais qu'avoir un accent n'est pas une mauvaise chose, chaque fois que quelqu'un remarque que j'en ai un, même si ce n'est pas pour me juger, je me sens profondément honteuse.
Merci Isabelle. Moi, ça me rend triste puisque tu as mis le mot de honteuse, donc c'est un mot fort, vraiment très fort. Et aussi, ce que je voulais dire par rapport à tous les témoignages qu'on a eus de glottophobie, c'est que à chaque fois, la personne est blessée. Dikra, je crois que tu peux nous dire, mais quand tu es sortie du cabinet de l'ophtalmo, qu'est-ce que tu as fait?
J'ai pleuré. J'ai pleuré tout le chemin jusqu'à la maison. Et j'ai pris un rendez-vous chez un autre médecin. Et maintenant, je suis avec mes lunettes.
Et toc, voilà. Ouais. En tout cas, on voit que c'est à chaque fois, il y a une blessure de la personne. Mais pour passer à des choses plus joyeuses, on vous a demandé, toutes les quatre, de choisir une musique dans l'une de vos langues, de nous la présenter et de nous la faire écouter. Alors, Isabelle, tu veux bien commencer ?
Oui, merci. L'invitation, c'est une chanson écrite par Jorge Celedón et Jimmy Zambrano, publiée en 2009, dont il raconte la beauté de la Colombie. Cette chanson parle de chaque carnaval et festival, ainsi que des monuments et des traditions colombiennes. Cela me touche profondément parce qu'elle raconte ce qui est vraiment mon pays. Puisque d'habitude, quand je fais connaissance de quelqu'un qui n'a jamais voyagé en Colombie ou qui ne la connaît pas du tout, ils ont tendance à répéter de ce qu'on entend à la radio ou dans les infos, ce qui est parfois d'informations négatives. Néanmoins, l'invitation, c'est une vue globale et certaine de ce qui signifie la Colombie, un pays avec une variété assez large de faune et flore, des vistes émerveillantes, riches en traditions et cultures. C'est une vraie invitation à connaître mon pays d'origine sans des stéréotypes.
Como te quiero, Colombia! canción que nace en el corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo. Les pido tres minutitos de su atención. Les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña. Goticas de agüita fresca que manda Dios.
Santa
me dijo que les hiciera la invitación. Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el carnaval que hay en Barranquilla,
en Montserrat, en el Bogotá,
por esas bonitas ferias de Cali,
Festival Vallenato del Valle del Mar,
por las bellas playas de Cartagena,
Salsa Marta y Fiesta del Mar,
por el aguardiente y las cosas buenas,
de Colombia ven a tomar,
por las ferias de las flores que hacemos en Medellín, la parranda en mi Guajira y las arepas de maíz, por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación, Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón. ¡Ay, hombre! ¡San Andrés y Providencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Desde Leticia a mi Guajira!
Je vais vous présenter la chanson Le Lointain Admirable a été écrit par le compositeur Evgeny Krylatov sur des paroles de Yuri Entin. C'est une chanson russe très connue qui parle de l'enfance, du passage vers l'âge adulte et du chemin vers l'avenir. Il y a ces paroles. J'entends une voix du lointain admirable, la voix du matin dans la rosée d'argent. Je l'entends et le chemin incroyable me donne le vertige comme un manège d'enfant. Et ces mots me font penser à toutes celles et ceux qui ont quitté leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Et aussi parle à ce lointain admirable et demande « Sois pas impitoyable ». Commencer une nouvelle vie à zéro dans un pays inconnu avec une autre langue, ce n'est jamais facile.
Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь. А чистого истока, прекрасная далёка, прекрасная далёка, я начинаю путь. Голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь, а чисто.
Aujourd'hui, j'ai choisi la chanson de Alassima, qui est écrite par Abdelmajid Maksout. Alassima, c'est-à-dire la capitale en Darija algérienne. C'est une chanson qui est considérée comme une œuvre qui exprime l'identité culturelle de la capitale algérienne.
إلى يوم الدين الناس دوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين فسدوا بلاد سيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين حمر اللحية يا قرابي وسيدي محمد بو قبري قولوا لي يا سمعي ريحة البهجاوي قولوا لي يا سمعي ولاد العاصمة جيهتك المشي زحف الريف جاب غشي الحيا والحرم ما بقى شي قل الايمان والدين وين المرمى وشواشي.
J'aime beaucoup la chanson. J'ai gardé l'accent de Mireille Mathieu parce qu'elle parle avec fierté de ses origines. Elle montre que garder son accent, c'est garder son identité. J'aime aussi la voix forte et son accent de sud. Vraiment, cette chanson me touche et me donne l'envie d'être fière que je suis.
Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille. C'est le mi-coucoulier où jouent les écoliers. Qu'une cigale égaye. Quand la mer de Pagnol, en retenant ses vagues, s'endort en rêvassant et rêve d'un marin qui lui passe la bague. La mer a notre accent. Le vent de Mistral décoiffe les marchandes, jouant au tout-puissant.
Merci toutes les quatre pour vos choix de musique. Et Mana, la chanson que tu as choisie, ça résonne avec un poème qui s'appelle L'Accent, qui est un poème de Miguel Zamacois. Que tu veux nous partager, tu vas nous en partager un petit bout. À toi.
Non, je ne rougis pas dans mon fidèle accent. Je veux qu'elle soit sonore et claire, retentissant. Elles m'ont allé tout droit, les mœurs toujours pareilles. En pourtant, mon accent fièrement sur l'oreille. Mon accent, elle voudrait l'écouter à genoux. Elle ne fait emporter la Provence avec nous. Elle fait chanter sa voix dans tous mes bavardages, comme chante la mer au fond des de coquillages.
Bravo. Avant de finir, j'aimerais dire que parler avec un accent, ce n'est pas une faiblesse. C'est une richesse, le reflet d'un parcours, d'un apprentissage, d'un effort. On apprend la langue, on avance chacun avec sa voix et on a tous les droits d'être entendus, même avec un accent. Merci de nous avoir écoutés et surtout continuez à parler, à vous exprimer avec votre voix, vos mots, votre accent. À bientôt.